Je dirais que c'est quand même dans mon sang parce que mon père est juif, mais que du fait de la religion, je suis pas juive au sens strict du terme parce qu'il faut être né d'une mère juive et que ma mère est catholique. Mais j'ai quand même grandi dans la tradition juive, notamment par mes grands-parents paternels, donc qui nous ont initiés à certains rites. Et la judéité, le judaïsme, c'était présent dans la cuisine, c'était présent dans des symboles à la maison de mes grands-parents, c'était présent dans la langue, parce que mes grands-parents parlaient hébreu, arabe. Il y avait tout ce côté juif en eux, quoi.
Par les traditions que j'ai eues de ma mère, sans être pratiquante, mais par la gastronomie, les fêtes, pas forcément avec des prières et tout ça, mais par les fêtes, par les rassemblements familiaux, ouais, par l'attachement à l'histoire de la famille de ma mère.
Alors, se sentir juif, chaque personne aura une réponse différente, et je pense que c'est ça aussi qui est très important. Chaque juif a une définition différente de son judaïsme, un rapport différent au judaïsme. Il y en a où ça va passer par la religion, moi beaucoup moins. Pour moi, être juif, c'est d'abord, factuellement, c'est une origine. C'est un lien indéfectible, notamment avec la terre d'Israël, la terre de Canaan, qu'on peut lui donner beaucoup de noms. Mais c'est aussi un lien culturel, très très fort avec d'autres personnes juives, un lien traditionnel. Et évidemment que dans cette culture, dans cette tradition, il y a un rapport au religieux. En France, on a l'impression que le juif est un religieux, juif athée, ça serait contradictoire. Et donc moi, je suis l'exemple même que non.
Donc on est religieux, mais si on dit à des juifs qu'on est religieux, ça correspond pas à ce qu'on est vraiment. C'est un peu bizarre, mais on est pratiquant traditionnaliste. On n'est pas religieux. Enfin, au sens propre du terme, si, mais on n'est pas considéré comme des religieux. Nous, dans notre famille, quand on parle des religieux, c'est les personnes un peu plus orthodoxes.
Déjà, moi, je suis assez indécise, en fait, sur cette question de est-ce que je suis juive ou pas. Alors, je me sens juive beaucoup dans un rapport au doute. Je trouve que, enfin, là, j'ai écouté il n'y a pas longtemps Johann Sfar qui disait, ben voilà, un juif, c'est quelqu'un qui se couche le soir avec une question et qui se réveille le matin avec une autre question. Et je trouve que, voilà, il y a une valorisation du doute, enfin, que je trouve très précieuse.
Personnellement, je suis juive déjà par conviction personnelle. Enfin, je crois en Dieu, je pense qu'il y a, je sais pas quelle forme il a, mais je crois qu'il y a quelque chose au-dessus. J'y crois intimement, je suis pas forcément très pratiquante au quotidien. J'ai mes petites manies, mes petits points de religion, manger la viande cachère, donc qui suit les rites, tout ça. Mais c'est vraiment au quotidien, c'est plutôt intime. Donc c'est pas, je vais pas souvent à la synagogue, je vais pas souvent faire des grandes manifestations religieuses, mais je le sens et j'aime, je suis attachée aux traditions aussi. Donc ça, c'est ce qui vient de la famille. On fait les fêtes de manière traditionnaliste, plus par habitude et par joie de se retrouver que par vraiment. Ouais, c'est pas du tout une obligation.
Ce qui, pour moi, en fait, personnellement, prouve que je suis juive, c'est simplement ma bat mitzvah. Comme ma mère n'est pas juive, il m'est arrivé un jour qu'on me dise, mais en fait, t'es pas juive, qu'est-ce que tu fais ici, t'es pas du tout juive. Et j'ai dit, bah si, parce que j'ai fait ma bat mitzvah. En fait, c'est vraiment ce petit truc qui me prouve physiquement que je suis juive et que je peux rétorquer quand on me dit que je suis pas juive.
Un bat mitzvah, c'est pour un garçon, et un bat mitzvah, c'est pour une fille. C'est au moment où tu deviens juif, c'est à 13 ans ou parfois c'est 12 ans pour les filles. Moi, je pense que j'ai commencé à préparer il y a 2 ans avant. Je suis allée au Talmud Torah, c'était chaque dimanche. Je suis allée à mon synagogue où j'ai appris un peu les histoires du judaïsme et la Bible.
Moi, je fais partie d'une famille juive, mais qui n'est pas en lien avec vraiment la pratique religieuse. On est juif plus de culture, on est juif de nourriture, quoi. Et du coup, je me suis rapprochée vraiment du judaïsme vers, j'avais 23 ans, quelque chose comme ça. Et du coup, là, je me suis vraiment renseignée sur voilà, la Bible, je l'ai lue vraiment à ce moment-là. Et j'allais assez régulièrement à la synagogue, donc il y a eu ce rapprochement-là, quoi.
J'y vais de temps en temps, ou j'accompagne mon papa, mes frères qui y vont plus, ou j'ai le temps, parce que j'avoue que jongler entre les études, le travail et la synagogue, c'est un petit peu compliqué. Par contre, j'y vais pour les fêtes. Mes deux arrière-grands-pères, du côté paternel, ont participé à la construction de cette synagogue. Et mon grand-père a été président de cette synagogue, et actuellement, mon père l'est. Donc, il y a un petit peu un côté affectif et historique, cette synagogue. Elle tient une place vraiment importante dans ma famille.
Pas souvent, pour qui pour, j'y vais. C'est la seule fête que je respecte bien dans les règles, entre guillemets. C'est le jeûne du grand pardon. C'est une fois par an, donc on jeûne du soir au soir d'après. Et c'est pour se faire pardonner de ses péchés qu'on a fait pendant l'année. Donc à défaut de faire le reste, je me fais pardonner de mes péchés. C'est vrai que c'est une fête que beaucoup de monde fait, même les juifs non pratiquants. On se retrouve le premier soir pour manger avant le début du jeûne. Et puis après, on jeûne jusqu'au lendemain soir. Et pendant toute la journée qui pour, on va à la synagogue. Puis on fait un peu le tour des synagogues à Grenoble, du coup, pour aller voir un peu tout le monde. Et voilà.
Du vendredi au samedi, on est censé être en famille. Vendredi soir, c'est pas un jour où on va être avec les copains dehors au resto. Ça se fait pas, quoi. Donc le vendredi, ça commence par l'allumage des bougies. Ça veut dire qu'on rentre dans Shabbat. Ensuite, il y a un repas qui a été préparé avec un peu plus d'amour que les autres jours de la semaine, on va dire ça comme ça. Et c'est un repas qu'on va passer à table, donc il va commencer par une prière. On se met tous à table, il n'y a pas de téléphone, par exemple, c'est un détail, mais il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de télé le vendredi soir. Le repas du vendredi soir et le repas du samedi midi, ils se déroulent plus ou moins de la même façon. C'est des moments de famille.
Et comme me dit toujours ma mère, eux, le vendredi soir, il y avait toujours ses copines qui venaient chez elles, parce qu'ils ne devaient pas rentrer à 23h, mais ils avaient le droit de sortir à partir de 23h, après avoir partagé un bon dîner en famille à Shabbat. Du coup, tout le monde venait, c'était la planque pour sortir le vendredi soir, parce qu'ils étaient pratiquants, mais cool quand même. Normalement, on ne sort pas chez les vrais pratiquants, on ne sort pas à Shabbat, mais le tout, c'était de partager un bon moment ensemble avant de vaquer à ses occupations, quoi.
Le Shabbat, c'est aussi une belle tradition où on se réunit, justement. Donc ça peut être à la synagogue, ça peut être en famille, ça peut être entre amis. Moi, je vais toujours me réunir, je vais toujours me rassembler avec d'autres personnes, voir du monde, pas forcément à la synagogue. Pour moi, ça passe plus par le social, par l'amical, justement, avec des personnes juives, mais aussi avec des personnes non-juives, où c'est génial de faire découvrir ces traditions, parce qu'elles sont belles, ces traditions.
C'est-à-dire que tout le monde va débriefer de sa semaine, on va tous se raconter des choses, souvent ça part en débat, selon qui y a autour de la table. C'est un instant qui est un peu privilégié.
Mon père, très reculé de manière générale des religions, hein, qui n'est pas du tout... athée mais catholique de base, baptisé d'une famille très sicilienne, deux opposés pour le coup. Moi, j'ai pas connu ma grand-mère maternelle, mais lui l'a connue et il faisait beaucoup les fêtes chez ma grand-mère. Tous les vendredis soirs, ils étaient à Shabbat chez ma grand-mère. Donc voilà, c'est des traditions quand même qu'il a vécues, qu'il apprécie. Après, c'est des traditions. Il y a tradition et religion, quoi.
Les fêtes juives sont des fêtes qui célèbrent des événements historiques qui se sont passés, donc plus ou moins réellement, plus ou moins dans l'histoire de la religion, de la Torah. Mais rien que ça, en fait, c'est lourd à connaître, à apprendre, à comprendre vraiment l'histoire. C'est vertigineux. Quand on m'a dit qu'il y avait des sages, des rabbins qui étudiaient la Torah tous les jours et qu'en fait c'était ça leur métier et qu'ils faisaient rien d'autre de leur vie, je me disais, mais... qu'est-ce qu'il y a à faire à part lire le livre une fois, faire des annotations et puis basta. Mais en fait, non, il y a relire, réinterpréter, réapprendre. C'est très impressionnant.
Et puis, on est dans l'interprétation. C'est-à-dire qu'il y a des règles qui sont édictées dans le texte, notamment les règles par rapport, quand on va dans un cimetière, normalement, à la fin, il faut sacrifier une vache rouge. Donc c'est un peu compliqué à faire. Donc, ça, on le fait pas. Donc, au final, on est toujours en deçà, quoi. Il y a un peu ce côté-là. En tout cas, c'est une quête. Voilà, c'est un parcours, quoi. C'est ce que je perçois.
Les contraintes alimentaires, les contraintes par rapport, par exemple, au Shabbat. Donc, on a des choses à respecter, comme... Bon, j'ai des exemples concrets, mais ne pas sortir le vendredi soir avec les copines quand on commence à vouloir sortir un petit peu sans les parents. Devoir s'habiller d'une certaine façon quand on va à la synagogue, même si nous, on est plutôt libre d'esprit, on va dire, de ce côté-là. Mais voilà, devoir se mettre en robe quand on va à la syna, ça reste une obligation qu'on nous donne.
Par exemple, il y a aussi l'interdit de ne pas mélanger les matières lactées avec les matières carnées. Parce que dans le texte, il est dit « tu ne mélangeras pas le chevreau avec le lait de sa mère ». Bon, on peut très bien estimer qu'on peut prendre le texte littéral et dire « bon bah le chevreau, ça va pas avec le lait de sa mère, basta, quoi ». Enfin, et puis ça s'applique au chevreau et spécifiquement au lait de sa mère. Et voilà, enfin, il n'y a pas nécessité de se dire qu'il faut deux frigos. Enfin, parce que chez les orthodoxes extrêmes, ils ont carrément deux frigos, quoi. Et ça implique aussi un rapport aux autres aussi particulier. Enfin, moi, par exemple, le frère de ma grand-mère, lui était très religieux. Et par exemple, il n'allait pas manger chez ma grand-mère, il n'allait pas passer de temps chez ma grand-mère, parce que quand on ne mange pas chez quelqu'un, on n'y passe pas de temps. Parce que sa vaisselle n'était pas cachère, parce que voilà, elle n'avait pas fait tout le processus où... une fois par an, il faut faire ci, il faut faire ça. T'as des vaisselles pour la viande, des vaisselles pour le lait, quoi.
Ben, je me suis pas vraiment posé la question jusqu'à un certain temps, parce que j'étais juive, j'avais ma façon de pratiquer. En fait, mes parents, c'est le modèle, donc j'applique la façon dont mes parents fonctionnent. Je l'applique à ma vie au quotidien. Et la question, on va dire, peut se poser ou s'est posée au moment où je me suis mise en couple. C'est vraiment le moment où j'avais 18 ans, donc c'est aussi un moment où on se construit, où on se pose des questions, je pense. Et comme je me suis mise en couple avec une personne qui n'était pas juive, et que pour moi, c'était pas quelque chose qui était envisageable avant que je me mette en couple du coup avec cette personne, c'est là où ça m'a renvoyée à ma judéité, pour le coup. Aux contraintes qu'il y avait et aux règles que je devais respecter versus la relation que j'entamais avec une personne qui, du coup, n'était pas de cette religion-là. Voilà, ça a été des années de bataille un peu intérieure pour trouver un équilibre entre ce qu'on me demande de faire, ce que je dois faire, ce que j'ai envie de faire, et dans ce judaïsme moderne, quoi, si on peut dire ça comme ça, et dans ma vie d'adulte.
J'ai eu ces cours également de Talmud Torah, mais on était plus sur apprendre à lire, à écrire les règles plutôt que la manière dont elles s'appliquent au quotidien et ce que ça implique et la manière de le faire plus que ce qu'on fait qui compte. C'est derrière le concret, on fait quelque chose, on mange kasher, on fait une prière, mais faire une prière, si c'est par habitude... ça perd de son sens parce que tout est calculé pour être en relation avec Dieu et quand on le fait par habitude, on a parfois tendance à oublier.
Moi, je sais lire l'hébreu ancien, je ne le comprends pas. C'est un hébreu qui n'est plus pratiqué. Aujourd'hui, en Israël, on parle l'hébreu moderne. Et donc, l'hébreu moderne et l'hébreu ancien, c'est pas tout à fait la même chose. J'ai commencé avec mon papa, avec mon grand-père. Et après, j'ai eu un professeur qui est un ami de mon papa, une personne très très pieuse, qui m'a beaucoup enseigné pour que je puisse faire ma bar mitzvah. Chez les juifs, la bar mitzvah, c'est le fait de devenir un homme. Peut-être aussi de devenir comme mon père, comme mon grand-père et comme les hommes que je regardais à la synagogue.
Le lien à la langue est très important. La langue hébraïque est liée au religieux aussi, et donc pour vraiment comprendre la Bible, il faut parler hébreu. Plus on s'intéresse à l'hébreu, moins on comprend, mais d'une manière positive. Moi, j'ai commencé à suivre des cours d'hébreu avec une professeure à Grenoble qui, justement, on s'intéresse à, non pas à la langue que je suis bilingue dont je parle, mais à la langue ancienne, à l'hébreu biblique. Et justement, et là, j'apprends chaque jour de nouveaux termes et c'est génial, de nouvelles significations parce que tout est lié. Encore une fois, ça c'est mon rapport au judaïsme que je développe, mais je le trouve passionnant.
Dans le judaïsme, il y a plusieurs mouvements du judaïsme. Il y en a qui sont plus orthodoxes, plus conservateurs, où ils suivent vraiment les règles de la Torah, et où si dans une famille la mère n'est pas juive, et ben, les enfants ne sont pas juifs, un point c'est tout. Nous donc on est dans une synagogue libérale qui nous ont tout à fait acceptés, en sachant que notre mère n'était pas juive. Dans cette synagogue, quand il y a des offices, des cérémonies, des fêtes, etc. Le Shabbat, le vendredi, etc. Tout le monde est dans la même salle, il n'y a pas de séparation entre femmes et hommes, ce qui peut être le cas dans les synagogues plus orthodoxes. Donc en fait, moi, je n'y ai vu vraiment aucun problème et j'ai réalisé en fait que très tard, qu'il fallait que la mère soit juive pour être juive. En fait, ça m'importait peu, ça n'avait aucune importance. Ma mère n'est pas juive, bah d'accord, et alors ?
Et on s'est retrouvés derrière une vitre entre femmes parce que faut surtout pas mélanger les femmes et les hommes. Et surtout, enfin, à la limite, ne pas mélanger les femmes et les hommes, moi, c'est pas quelque chose avec lequel je suis nécessairement en opposition. Mais par contre, foutre les femmes, les reléguer, quoi. C'était vraiment une relégation, quoi. Ça, j'ai trouvé ça. C'est absolument pas en accord avec mes valeurs et mon existence, quoi.
Pour l'anecdote, quand ils ont ouvert la porte pour dire venez voir, on va commencer la circoncision, vous avez le droit de venir voir, aucune femme ne voulait rentrer dans l'espace réservé aux hommes. Donc moi, j'ai dit moi, j'y vais parce que. Enfin voilà, j'ose plus. Et je suis rentrée, et après, elles ont suivi, quoi. Pas toutes, mais il y en a quand même certaines qui ont suivi.
Donc ça se transmet par la mère, donc ça, ça fait partie des lois rabbiniques. C'est aussi parce que, évidemment, on sort du ventre de notre mère, et donc c'est la preuve la plus formelle de la transmission. Mais encore une fois, il y a des courants, notamment certains courants libéraux, qui disent que ça peut se transmettre par le père, ou il y a aussi, par exemple, les personnes converties, qui sont des personnes juives à part entière, et eux, c'est pas passé par la mère, mais donc ça a été une construction.
La naissance, enfin les naissances juives ou autres, c'est des rituels, je pense, qui sont transmis de génération en génération, mais c'est beaucoup d'oralité, ou alors, on va dire, repris des textes religieux, quoi. Donc quand les enfants naissent, que ce soit les garçons ou les filles, vous verrez peut-être en vous baladant dans Grenoble des poussettes. Alors du coup, j'ai demandé à mes patientes ce que c'était. Et en fait, c'est des psaumes qu'ils accrochent en haut des poussettes. C'est ce qu'ils appellent des téfilim. C'est une prière de bénédiction, quoi.
Ça va changer selon d'où l'on vient. Les traditions sont vachement ancrées, la culture est vachement ancrée dans la religion. Donc nous, comme on vient d'Afrique du Nord, principalement, on vient d'Algérie et du Maroc, mais comme, on va dire, c'est la maman qui met un peu son grain de sel côté cuisine, donc on tire plutôt du côté du Maroc. Chez nous, on va manger, par exemple, beaucoup d'entrées. Alors, normalement, on doit commencer par du poisson, si vraiment, on respecte la règle. On doit commencer par du poisson, donc ça peut être du saumon, par exemple. Et ensuite, une fois qu'on a mangé le poisson, on enlève tout ce qui est autour du poisson, et on va rentrer dans tout ce qui est plat de viande. En général, il y a plein de petites entrées, des petites kémia, on pourrait dire. Donc ma maman, elle va faire, par exemple, ça peut être des carottes cuites au cumin, ça peut être son entrée favorite que nous, on adore, c'est la salade cuite ou chouchouka, la salade de poivron vraiment mijotée pendant des heures avec la sauce tomate et tout ça. Le pain de Shabbat, qui est hyper important, toujours présent, donc c'est les chalot, le pain qui a été tressé. On peut l'acheter, mais c'est quand même mieux de le faire.
La recette là qu'on a préparée ensemble, c'est la recette des cigares aux amandes. C'est une recette que faisait mon arrière-grande-tante. Le plus difficile à préparer dans cette recette, c'est la pâte en fait qui va entourer la préparation avec les amandes. C'est la feuille de brique. Et ça, c'est vraiment compliqué.
Et ensuite, les plats, ça varie selon donc d'où l'on vient et la saison. Par exemple, un plat réconfortant que ma maman elle fait, c'est une dafina. C'est un plat qui cuit du vendredi au samedi, donc on le mange le samedi midi, parce qu'il reste sur la plata, donc il y a une plaque de cuisson qu'on branche. Et ça, c'est un plat qui est très gras, qui est originaire, je pense, du Maroc, du coup, avec des pommes de terre, du blé, de la viande, des œufs.
Je me souviens que ma grand-mère, elle cuisinait souvent un plat avec des fèves, à base de fèves. Je sais pas, j'avais peut-être 8-9 ans, et je la revois faire ce plat avec des fèves.
Ma mère fait les recettes de ma grand-mère faisait les recettes de sa mère, ma tante, enfin, en fait, se transmet énormément. Et c'est vrai que ce soit pendant le Shabbat, pendant les fêtes et tout ça, la gastronomie est au cœur des fêtes.
Et ça cuit vraiment longtemps, quoi. Ça mijote.
Et du coup, j'arrive bientôt maintenant à faire la chouchouka de ma mère qui a le même goût. Mais c'est tout ce que j'arrive à faire pour l'instant. Et ma mère aussi, hein, c'est toujours, quand elle cuisine, c'est quand elle goûte, ah là, ça a le goût de ce que faisait ma mère, quoi. Et même le frère de ma mère, pour son anniversaire, elle lui a envoyé des tripes à la marocaine par la poste pour ses 70 ans sous vide. Voilà, donc que faisait sa mère. Et c'est vrai que c'est beaucoup de retrouver le goût de l'enfance, un peu la Madeleine de Proust.
C'est mon grand-père qui parle beaucoup de cette histoire à Safarad, parce que son famille est Safarad. Et parce que, par exemple, mon arrière-grand-père, son père, non, arrière-grand-père, il s'enfuit de Turquie parce qu'il a dû, en gros, il est arrivé aux États-Unis. Il a travaillé 8 ans après pour économiser l'argent pour la famille, pour ramener toute la famille. Donc, du coup, mon arrière-grand-père, il avait nous pour rejoindre la famille quand il avait 8 ans, truc comme ça. Mais pour 8 ans, la famille ne savait pas si leur père était vivant ou pas. Donc, c'est une chose qui... Vraiment, par mon grand-père, il n'y a pas beaucoup de traditions là, de traditions séparades. Mais aussi, il garde tout les transmissions de la famille qui sont venues aux États-Unis avec leurs dates, les bateaux.
Et chez mes parents actuellement, ce qui est très fort pour nous dans la famille, c'est qu'on a un grand tableau avec un laissez-passer unique que mes grands-parents ont eu quand ils sont partis du Caire, parce qu'ils ont été chassés par Nasser dans les années 50. Ils ont dû partir en France. Et donc, on a un grand tableau, c'était un ticket quoi, de bateau unique pour la France, laissez-passer unique.
Les Séfarades, c'est plutôt le sud de l'Europe, tout ce qui est plus ou moins méditerranéen. Donc il y a eu beaucoup de mouvances entre les différents pays, que ce soit l'Espagne du coup, mais aussi les pays d'Afrique du Nord. Et Ashkenaz, ça désigne plutôt les pays d'Europe de l'Est aussi, donc Allemagne, Pologne.
La culture est totalement différente. Je connais peu d'Ashkenaz.
De ce qui est, par exemple, de la partie ashkénaze, qui est la partie, par exemple, qui a le plus souffert pendant la guerre, c'est cette manière d'être juif sans le montrer, donc qui vient de mes grands-parents, qui ont dû se cacher, des arrière-grands-parents, oncles, tantes déportés.
Et un peu plus ouvert, cultivé, voilà, l'impression que j'ai.
Et puis une manière de pas se plaindre, c'est plus dans le comportement que j'ai vu et que j'ai admiré. Chez mes grands-parents, enfin, celles que j'ai connues, du coup, au vu générationnel. Et du côté séfarade, c'est plus la manière de tenir une maison, un état d'esprit, de recevoir, de se taquiner beaucoup plus, alors qu'on est beaucoup plus dans la retenue du côté de chez mon papa. C'est un mélange avec lequel j'ai trouvé un équilibre et qui me plaît bien. Donc.
Quant à ma légitimité à être juive, bah en fait... Ça a légèrement changé, dans le sens où maintenant, je me sens beaucoup plus vulnérable aux yeux des autres parce que juive. Pour mes amis, mes ex-amis avec qui donc il y a eu cette dispute, j'étais juive, peu importe, en fait. Que ma mère soit juive ou pas, au final, ça n'importait que très peu. Et donc, par mes idées politiques et ma religion, je me sens beaucoup plus vulnérable. J'ai un peu cette impression bête que quand je parle à des gens, je me réduis qu'à ça et j'ai très peur qu'on le découvre. Donc j'évite en fait.
C'est vrai que quand on est juif, on est toujours attaché au conflit. Moi-même, qui suis pas la plus juive des juives, entre guillemets, parce que je pratique pas, je suis souvent rattachée à ça et puis encore plus ces derniers temps. On a beau ne pas être pour ce qui se passe, on est toujours attaché à ça.
C'est-à-dire qu'on peut tomber sur des personnes très ouvertes d'esprit, qui sont très intelligentes, qui sont capables de discuter et de comprendre. Mais on peut aussi tomber sur des personnes plus fermées, qui ont moins de connaissances et qui ont une vision un petit peu plus réfractaire du judaïsme. Parce que c'est vrai que le judaïsme, c'est une religion qui est... peu connu, à part Shabbat ou à travers des films très connus comme Rabbi Jacob, La vérité si je mens, etc. C'est pas quelque chose qu'on connaît énormément. Et le conflit géopolitique fait qu'il y a des gros amalgames et j'ai pas forcément envie de rentrer dans ce genre de discussion avec mes collègues. Ça m'est arrivé toute ma vie.
J'ai cette impression que d'être juif, pour moi, c'est... Il y a une connexion à Israël qui s'était assez présente, à mon avis, d'être juif. Pour les gens qui ne comprennent pas cette lien à Israël, parce que il y a la guerre, il y a beaucoup de choses pas agréables en guerre. Parfois, c'est difficile d'exprimer cette connexion dans un pays où la plupart des gens détestent.
Déjà, il y a un amalgame entre juifs français et juifs israéliens, entre les juifs et les sionistes.
Le plus fort, le plus dangereux, c'est bien évidemment l'idée que toute personne juive est un soutien inconditionnel du gouvernement israélien. Et ça c'est terrifiant parce que ça met les juifs dans une position où on doit se justifier complètement et tout le temps. Et c'est vraiment problématique parce que dans ce cas, on ne peut plus dialoguer.
Il y a cette, quand même cet antisémitisme qui est assez présent. J'ai déjà entendu des propos antisémites dans la discussion.
Moi, mes conséquences immédiates, personnellement, c'est que j'ai perdu mon cercle d'amis. Donc je me suis retrouvée peut-être pendant 4, 5, 6 mois sans amis du tout à la fac. Et donc, ce qui était une vraie blessure pour moi. Je n'avais jamais reçu des paroles antisémites. Ces amis en question étaient vraiment contre la discussion, contre le débat, ne voulaient pas du tout entendre mes arguments. Parce que moi, il faut savoir que je suis pas pour l'anéantissement de l'État palestinien. Au contraire, moi, je suis pour la paix et l'existence des deux États.
Ce que j'ai au cours du coup, c'est Chai, donc c'est une chaîne avec Chai. Donc Chai, c'est en hébreu, ça veut dire vivre. Et donc ça, c'est très intéressant parce que j'ai commencé à mettre donc cette chaîne à partir du 7 octobre. Le Chai, c'est pour moi déjà en termes de signification, c'était plus évocateur. On va dire le Magen David, c'était j'en avais un chez moi parce que voilà, en Israël, on a tous au fond du placard un Magen David. Mais justement, ce Magen David, étant donné que c'est aussi l'emblème du drapeau israélien, il y a énormément d'amalgames qui ont été faits, que voilà, porter le Magen David, c'est être un soutien, non pas d'Israël, parce que évidemment, j'ai vécu 9 ans en Israël, mais je ne suis pas un soutien du gouvernement israélien. Et quand ça revenait tous les jours, que justement, ce Magen David, pourquoi tu as ça, pourquoi tu portes ça, évidemment, d'abord, on veut combattre, d'abord, on veut expliquer. Mais quand on explique tous les jours et que ça revient, à la fin, on sent que c'est un combat qui ne vaut pas la peine.
Enfin, j'ai déjà entendu « Ah, mais les Juifs, ils n'ont rien à faire ici, en France. » Voilà, j'ai entendu ce genre de propos. Hein. Donc là, c'est toujours comment réagir dans ces situations-là. Est-ce que je laisse glisser? Est-ce que je dis quelque chose?
J'ai jamais vécu dans la peur. Nos parents ne nous ont pas appris à avoir peur de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Donc par exemple, j'ai ma Magen David autour du cou, je ne l'ai pas enlevée. Je ne me sens pas en danger, je sais qu'il y a beaucoup de juifs qui ont l'impression de subir l'antisémitisme. Moi, ce n'est pas quelque chose que je vis au quotidien, très honnêtement. Mon judaïsme, j'en parle ouvertement, donc si quelqu'un a un problème, par exemple, dans le milieu professionnel, bah, qu'ils me le disent, enfin, ce n'est pas un souci pour moi d'en discuter. Je ne m'en cache pas.
Mon père m'a aussi dit, depuis que je suis toute petite, fais attention à ça, c'est un secret, tu le gardes pour toi, ça peut être dangereux si tu le dis aux autres, donc c'est vraiment quelque chose qui est resté en moi parce que ça pouvait attirer la haine, les discriminations. Il nous protégeait beaucoup, mon frère et moi, et encore aujourd'hui, il faut faire attention avec ça, on le dit pas à tout le monde, à n'importe qui.
Il y a quand même des membres de ma famille qui ont eu peur, mais moi je refuse. Tous les gens autour de moi qui ont enlevé leur mezouzot et tout, je leur ai dit « mais vous êtes fous quoi, enfin, on n'est pas en 39-45, faut pas se cacher quoi ».
Maintenant c'est vrai que j'ai pas spécialement, depuis un an, ce sentiment d'insécurité. Moi j'ai surtout le sentiment de « faut pas vivre caché, faut pas avoir peur ». Il y a des gens qui vont être violents, racistes, mais ça c'est que vous soyez chrétien, musulman ou juif, il y aura toujours quelqu'un pour vous dire que vous faites pas ce qu'il faut ou que vous êtes pas comme ci, pas comme ça. Mais en fait, faut pas écouter, faut être soi-même et garder la tête haute. Moi, c'est comme ça que je le vis, en tout cas.
J'aimerais pas transmettre de la peur, j'aimerais transmettre de la prudence. Bien sûr, la prudence, on est prudent parce qu'il y a quelque chose derrière, parce qu'on a peur. Donc comment faire la différence entre la prudence et la peur? Je ne sais pas, mais j'aimerais qu'ils soient ouverts au monde, qu'ils puissent parler à des gens sans avoir peur. Et j'espère pour eux que le climat d'ici là sera favorable à cette ouverture.
Qu'est-ce que je vais faire avec cette histoire? Et je ne sais pas, mais je pense que c'est une chose que j'ai appris. Je vais transmettre à mes enfants. Et je veux que mes enfants de savoir leurs racines d'être juif, même si on pratique pas, mais juste que l'importance de fêtes et traditions, parce que c'est une chose que je n'ai pas envie de les perdre.
Non, il n'y aura pas de transmission de la judéité. Enfin, il y aura de la transmission, théorique. Je leur dirais, voilà, vos arrière-grands-parents étaient juifs. Enfin, ça je leur dirais. Il n'y a pas de tabou là-dessus à la maison.
Ben, j'ai de la chance parce que du coup, je suis la femme. Donc, ma fille née juive. La malchance qu'ont les hommes, c'est que s'ils sont avec une femme non juive, c'est beaucoup plus compliqué pour. Il faut convertir l'enfant pour que l'enfant soit juif.
Pour les conversions, la conversion est très très difficile dans le judaïsme. Parce que c'est très très long. Il faut étudier beaucoup beaucoup la Torah.
Donc, moi j'ai la chance de transmettre ma religion. Alors, c'est sûr que si mon mari n'était pas d'accord avec cette transmission, ce serait compliqué. Il est croyant, il est chrétien, catholique, pratiquant. Il était séminariste, mais du coup, le fait qu'il soit pratiquant et croyant, enfin surtout croyant, moi, ça m'a aidé dans le sens où il comprend ma religion, quoi. C'est pas quelqu'un d'athée, donc qui est vraiment, il est pas totalement extérieur à la religion, la pratique, la foi, etc. Là, pour le coup, on est ok que l'enfant naît juif, selon mes préceptes à moi.
La connaissance pure et dure, disons la culture, la religion, etc. Qu'est-ce que je pourrais transmettre de ça, sachant que moi, je connais pas grand-chose. J'ai très envie de transmettre ça à mes enfants, comme mon père nous a transmis ça à mon frère et moi.
Moi, il faudrait que je sois un peu plus impliquée dans ma propre pratique. Et je pense que pour aider à ça, j'inscrirai à des cours de Torah, comme moi j'ai suivi le Talmud Torah. Donc c'est des cours comme du catéchisme le dimanche matin, pour qu'elle ait aussi un ancrage auprès de la communauté, etc.
Surtout que là, il se trouve que ce sera moi la mère, et donc que je suis juive, donc je transmettrai directement ma religion selon la Torah, donc autant en profiter.
J'avoue que la question des enfants, je crois que je suis un peu jeune pour me la poser. Je me la suis jamais posée. Mais oui, je pense que si j'ai des enfants, c'est un héritage culturel, donc oui, le transmettre, ce serait quelque chose d'intéressant, mais toujours dans la bienveillance et dans le bon vouloir de chacun.
La transmission, je la vois plus à travers l'écriture. Raconter un peu des histoires, alors c'est un peu de moi, un peu des histoires des autres, mais dans tous les cas, c'est ouvrir dans l'esprit d'autres personnes, ouvrir les portes d'autres existences, quoi.
S'il y avait un message que vous voudriez transmettre aux visiteurs de l'exposition, qu'est-ce que vous aimeriez dire ?
De venir découvrir le judaïsme pour son côté chaleureux.
Comprendre voilà, les traditions, les rites de
la gastronomie pour plein de choses, sans se fier à ce qui se passe dans le reste du monde.
Ne pas s'arrêter au juif le plus visible, en fait. Il y a des tas de personnes qui sont juives.
Les juifs ne se résument pas à un type de juif.
Je suppose qu'il n'y a pas en se passant d'être juif.
Oui, un autre rapport à la religion.
Chacun vit sa judéité.
Il n'y a pas une personne juive, il y a des personnes juives.
Son judaïsme, vraiment, comme ils le veulent.
Il n'y a pas un judaïsme, il y a des judaïsmes.
D'être juif, c'est chacun a son propre...
Mille et une manières de vivre son judaïsme, de se sentir juif.
Façon d'intégrer ça dans leur identité.
Chaque personne juive a un vécu différent, a une pensée différente.
Et aussi à la complexité.
On a un adage très connu, nous c'est deux juifs, trois opinions.
Ça va souvent ensemble, au final, le fait de... d'être dans la revendication, dans l'affichage.
Il n'y a pas la place pour les amalgames. Qu'il faut vraiment comprendre que chaque personne juive est différente.
C'est important dans le regard des autres sur le judaïsme que laisser la place aux discrets et aux nuancés.